Bienvenue sur En Aparté, je m'appelle Oriane Emery et je suis ravie de vous inviter dans les coulisses de la création artistique. Dans chaque épisode, je reçois un nouvel artiste de différents univers, le spectacle vivant, les arts plastiques, la littérature, la gastronomie, le cinéma, à parler en toute sincérité et décontraction de son quotidien, de ses inspirations, de ses galères comme de ses ambitions. Et j'en profite pour poser tout un tas de questions qui me taraudent sur le moment et qui, je l'espère, vous permettront à votre tour de découvrir des créatrices et créateurs inspirants avec un nouveau regard. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'En Aparté. Je l'ai enregistré il y a plus d'un an. Alors, certes, j'ai pris du retard sur le podcast étant en pleine reconversion professionnelle, mais en le réécoutant, je peux vous assurer que cet épisode est toujours d'actualité. J'ai eu la chance de recevoir à mon micro l'artiste Aude Gonnier-Goubert, aussi connue sous le nom de Aude Gégé. Elle est tombée dans la marmite artistique quand elle était petite. À 5 ans, elle foulait déjà les planches des théâtres et n'a depuis jamais cessé d'explorer les arts du spectacle en tant que comédienne, mais aussi metteuse en scène. Curieuse et passionnée, elle m'a raconté comment elle avait peu à peu levé ses idées préconçues sur l'audiovisuel qui n'était pas du tout son terrain de jeu initial. Vous l'avez sans doute vu dans de nombreux sketchs du Palma Show, mais aussi dans la web-série qu'elle a créée, Virago, qui dévoile avec une touche humoristique des portraits de femmes inspirantes et pourtant peu connues qui ont marqué l'histoire. On a parlé d'ambition, de syndrome de l'imposteur et de résilience. Elle m'a aussi raconté comment elle choisissait ses projets et comment elle se préparait en amont des tournages, que ce soit en tant que comédienne ou en tant que réalisatrice. On a parlé de mon sujet préféré, le processus de création, et j'ai beaucoup aimé sa vision des choses sur les contraintes qui peuvent se révéler source d'inspiration et décupler notre créativité. Vous découvrirez aussi dans cet épisode comment on s'est rencontrés. Mais je ne vous spoile pas plus et vous laisse découvrir cette nouvelle conversation en aparté. Bonne écoute. Eh ben salut Aude.
Coucou Oriane.
Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à venir parler sur En Aparté, malgré ton agenda très rempli.
Avec plaisir.
C'est vraiment super gentil. Comme je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, je vais essayer d'aller droit au but, comme on se disait. J'ai regardé un petit peu ta biographie et ce que tu avais fait, et on peut dire que tu es tombée dans le monde de l'art et en particulier du spectacle vivant quand tu étais petite.
Absolument.
À 5 ans, si ouais. Je ne me trompe pas. Est-ce que ça a changé, comment ton rapport à l'art a évolué au cours de ta vie? Parce qu'au départ, j'imagine que c'était plus un rêve, une passion, et finalement aujourd'hui, tu en fais ton métier, ton activité. Est-ce que tu as vu une évolution dans...
Alors, ce qui n'a pas changé, ce sont mes ambitions. C'est-à-dire que moi, dès l'âge de 5 ans, je savais que je voulais que ce soit ouais. mon métier. J'ai jamais eu de doute là-dessus. Enfin, j'ai même dit à mes parents à 5 ans, j'arrête l'école et je fais ça. Donc, vraiment.
Oui,
j'étais sûre que c'était ça. Donc, voilà. Bon, finalement, j'ai quand même continué l'école. Ce qui a évolué sont mes certitudes. Mais, je trouve ça bien aussi de se construire sur des certitudes pour se donner un cadre à soi, se donner des bases. Moi, j'étais persuadée que je ne ferais que du théâtre et que ce serait ça ma vie et que le cinéma, l'audiovisuel, la télé n'étaient pas du tout le même art et que c'était pas du tout aussi noble que le théâtre. Et puis en fait, j'ai découvert le web, j'ai découvert le cinéma, la télé. Enfin, aujourd'hui, je fais tout et j'ai vraiment cassé toutes mes certitudes autour de ça. Mais même il y a encore un an, j'ai cassé des certitudes puisque il y a un an, je ne savais pas que je réaliserais. Et aujourd'hui, je réalise des séries télé. Donc, en fait, c'est ça qui a le plus évolué.
T'as appris à déconstruire, en fait.
Ouais, complètement. C'est la déconstruction et puis de la remise en question perpétuelle, en fait. Mais positive.
Ouais, super intéressant. Et qu'est-ce qui t'a amené à... Après, j'imagine que ça dépend des différentes activités, mais entre l'écriture, la mise en scène, aujourd'hui, la réalisation, comment tu t'es dit, tiens, je vais explorer d'autres formes d'art et comment ça s'est passé en fait?
Ben, en fait, j'ai eu la chance qu'à chaque fois, on vienne me chercher.
D'accord.
Donc, j'avoue que moi, quand j'entends des gens dire ça en interview, je les déteste. Mais malheureusement, c'est un peu le cas.
C'est attendu pour toi?
Ouais, sont des opportunités. Après, je pense que ça vient aussi, les opportunités viennent aussi de ce qu'on dégage et de ce que les gens exactement. Projettent sur nous. Donc, en l'occurrence, pour faire du web, on est venu me chercher. Pour faire de la télé, on est venu me chercher. Pour la réalisation, on me l'a proposé. Enfin, voilà. Okay. J'ai juste pas fermé la porte à aucune opportunité.
Et c'était déjà des idées que tu avais avant? Et tu t'es dit
non. Ah oui, d'accord. Pas du tout. À chaque fois, moi, je suis très bien là où je suis, dans le sens où j'aime ce métier quoi qu'il arrive. J'ai jamais eu trop d'ego à me dire c'est de la comédie pour ci pour ça, ou c'est de la pub, ou c'est de l'institutionnel. J'ai jamais eu de. Tant que je faisais mon métier, moi, j'étais heureuse. Okay. Donc j'ai toujours vogué sur une chose de satisfaction. J'ai pas eu cette insatisfaction perpétuelle qu'on peut souvent trouver chez les artistes. Moi, j'étais plutôt heureuse à chaque fois que j'étais dans des endroits, mais on est toujours venu me chercher pour aller ailleurs. Et j'ai moi-même aussi créé, à un moment donné, mes propres créneaux.
Mmh. Donc c'est aussi une curiosité, parce que on aurait pu très bien te dire bah tu vas pas faire ça, et tu dis bah non, en fait
il y a encore des choses sur lesquelles je dis non, et mais peut-être que c'est pareil dans deux ans.
C'est quoi tes critères justement pour choisir un projet? Est-ce que c'est à l'émotion? Est-ce que c'est une opportunité?
Aujourd'hui, où je suis un peu plus entre guillemets installée, un peu plus tranquille, il faut vraiment que par exemple un scénario m'emporte. Et si c'est pas ça, il faut vraiment qu'il y ait une énergie de production, d'équipe heureuse, joyeuse, bienveillante et très sérieuse pour que ça me donne envie.
Okay.
Voilà, ça c'est mes critères d'acceptation de projet. Et après, il y a encore des choses que j'ai pas envie de faire globalement, mais qui sont dans les métiers que j'ai explorés. Il y a d'autres métiers encore qu'on me propose d'essayer et qui, pour l'instant, ne me séduisent pas. Parce que souvent, par exemple, on me propose beaucoup, beaucoup, beaucoup d'écrire. Et j'essaie d'écrire le moins possible parce que c'est un exercice de solitude et que moi, je suis une fille de troupe et que j'aime être avec des gens.
Ouais.
Et que la solitude, pour l'instant, n'est pas quelque chose à quoi j'aspire.
Donc tu t'autorises, pourquoi pas, à accepter plus tard si tu en ressens le besoin, mais...
Si j'ai vraiment une idée transcendante ou un co-auteur, une co-autrice qui me donne vraiment envie sur un projet, ouais. Mais pour l'instant, je trouve que c'est trop long et trop seul comme exercice. Et j'admire beaucoup les scénaristes qui sont trop peu mis en valeur et représentés en France, parce que c'est un métier vraiment d'abnégation incroyable.
Ouais, bah, j'ai interviewé un scénariste d'ailleurs, il en parlait très bien aussi. C'est vraiment un métier passionnant, mais très compliqué en France, je crois, par rapport à d'autres pays. Ouais.
Et en plus, aujourd'hui, en France, on demande beaucoup aux réalisateuristes d'écrire. Et moi, je trouve ça bien qu'il y ait des scénaristes d'un côté et quelqu'un qui...
Enfin, c'est deux métiers, quoi.
Au théâtre, on ne se pose pas la question. On prend les mots d'un autre et on les met en scène la plupart du temps. Aux États-Unis, on ne se pose pas la question non plus. En France, il y a toujours un peu ce culte de la personne qui fait tout elle-même, mais en même temps, ça empêche le recul. Donc, moi, j'aime bien rencontrer des scénaristes qui me proposent un projet et d'un coup, ça éveille plein de cases en moi dont on ne s'était pas parlé avant. Et du coup, on améliore le millefeuille, quoi. On rajoute des couches au millefeuille.
Oui, chacun apporte sa pierre et son expertise. Toi, justement, quand on te proposait des projets... t'as jamais eu ce sentiment d'imposture, de te dire en fait j'ai jamais fait ça, j'ai une envie et si tu crois en moi, why not? Mais
bien sûr que si.
Ouais.
Je n'ai eu que ça, le syndrome de l'imposteur, mais je pense que ça c'est quelque chose. Je crois que tout le monde lutte contre ça, quoi qu'il arrive. Mais l'avantage c'est qu'à un moment donné, je crois qu'il y a une petite bascule qui s'établit, qui me fait dire que s'ils sont venus me chercher, tant pis pour eux. Si je me rate, tant pis pour eux. Bon, en général, j'ai quand même l'exigence et la capacité de travail qui fait que ça se passe bien. Mais je suis plus tranquille sur le fait que c'est leur problème.
Et justement, est-ce que tu as des manières de te préparer? Est-ce que tu as besoin de rencontrer d'autres personnes qui font ce métier-là? Ou est-ce que tu te fais plutôt en ton intuition et tu te dis, bon, bah voilà, ils voulaient moi à ce moment-là?
Il y a un peu des deux. C'est-à-dire que moi, je suis une laborieuse, je suis curieuse, je travaille beaucoup, donc je pose beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions.
Ouais.
J'aime bien m'abreuver des expériences des autres. D'ailleurs, comme ton podcast le fait, ou comme tous les podcasts que je peux écouter, ce sont souvent des podcasts de témoignages, de vie, de gens qui racontent ce qu'ils font, parce que moi, ça me passionne. Quels que soient d'ailleurs les métiers, hein, pas du tout, ça peut être à l'opposé de ce que je fais. Donc je pose beaucoup, beaucoup de questions, je regarde les autres travailler, je demande à plein de gens que je connais, et puis ensuite j'en prends, j'en laisse, et je fais selon ce que je sens être le plus en cohérence avec ce que je suis. Parce que le problème, c'est que si j'écoute un tel qui a fait de telle façon, mais que moi je le sens pas, si je copie-colle, ça ne va pas fonctionner.
Ouais, bien sûr.
Donc voilà, c'est un mélange d'aller chercher des informations et d'aller de les mettre à ma propre sauce.
Et donc là, on parle plutôt de l'aspect chercher des informations, mais d'un point de vue inspiration, comment tu t'y prends? Est-ce que tu as des techniques, par exemple, pour ton projet de film? Comment ça s'est passé concrètement?
Je crois que je fais ça comme quand je mets en scène au théâtre, c'est-à-dire que je fais avec la matière qu'on m'apporte.
Okay.
Je prends toutes les contraintes et dès les contraintes, j'en fais un cadre. Voilà. Et c'est peut-être un peu paresseux, je sais pas.
C'est quoi, mais, par exemple, les contraintes que tu peux avoir?
Mais on va me dire, ben c'est telle actrice, c'est tel décor et c'est tel jour avec telle contrainte de temps et de costume et de voilà. Je prends toutes les contraintes du plateau
et
c'est, je compose avec ça. Et c'est ça qui fait le film. Après, il y a des choses qu'on décide en amont. Il
ouais.
y a des choses qu'on souhaite, mais en fait, ce qu'on souhaite n'est jamais. En tout cas, moi, c'est je ne suis pas, je suis pas encore arrivée au stade où j'ai exactement ce que je demande quand je demande quelque chose.
Okay.
Donc, il faut s'adapter perpétuellement, en fait. Donc, ce n'est qu'une une somme d'adaptation et de contraintes.
D'accord, la contrainte.
Mais la contrainte me plaît.
C'est-à-dire que
je dis la contrainte comme si c'était négatif, mais pas du tout. Moi, au contraire, je trouve qu'elle est, elle
ça
est source.
Aussi,
Bah, elle est source de challenge,
ouais.
Parce que avec telle contrainte, bon, comment je vais rendre quand même quelque chose bien, qui me satisfasse, qui soit esthétiquement correct, qui raconte quelque chose. Enfin voilà, donc ça oblige à se bouger.
Et ça t'est jamais arrivé d'avoir carte blanche sur quelque chose et du coup te sentir perdu?
On n'a jamais carte blanche, c'est faux en fait.
On
a toujours carte blanche dans on a toujours carte blanche dans le cadre de quelque chose. Moi, j'ai eu des endroits où j'étais très libre, mais très libre selon plein de critères. Donc en fait, on peut se les créer aussi les contraintes. On peut aussi se dire, eh ben, je vais faire telle chose, j'en sais rien, dans un plan séquence de nuit. Et puis c'est aussi le fruit de l'imagination et de la création que de se mettre ses propres contraintes.
D'accord, ok. Et toi, tu fonctionnes beaucoup à la visualisation, ou est-ce que tu as besoin de noter, faire des mood boards?
J'ai beaucoup besoin de baliser les choses en amont.
D'accord.
J'essaye de tout dessiner, de tout écrire, de tout expliquer autour de moi en amont, et je vois si on ne comprend pas. Si quelqu'un ne comprend pas, ça veut dire que personne ne comprend. C'est-à-dire que j'ai besoin que les choses que je veux dire soient claires et exprimées pour que ça parle au plus grand nombre. Donc je sais que je suis pas du tout le genre de personne qui arrive, que ce soit en actrice ou en réalisatrice, j'arrive pas sur le plateau en me disant je vais voir ce qui vient. Non, okay. Pas du tout. Mmh. Je travaille vraiment beaucoup en écrivant, en parlant, en couchant sur le papier et en balisant au maximum. Et par exemple, s'il s'agit d'un découpage technique pour un film, je vais écrire chaque plan et chaque emplacement de caméra que je vais dessiner.
Ok.
Et puis si d'un coup le décor s'effondre le jour J, eh bien c'est pas grave, parce que le plan, j'en aurais tellement parlé avec d'autres gens, je l'aurais tellement expliqué, qu'on pourra le recréer ailleurs, c'est pas grave. J'aurai l'intention de ce que je veux faire.
Mmh. Ah, c'est hyper intéressant. Du coup, quand tu fais toute cette préparation-là, tu challenges beaucoup avec d'autres, ou tu préfères être fidèle à ta seule vision?
Je travaille en équipe.
Ouais, tu travailles.
J'aime bien travailler en équipe. J'aime qu'on me remette en question, j'aime qu'on propose des choses mieux. J'aime aussi faire des choix, donc c'est bien aussi de se laisser proposer des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord.
Et tu travailles avec qui dans ces cas-là?
Alors,
les scénaristes ou...
En tant qu'actrice, c'est vraiment avec le réalisateur ou la réalisatrice où vraiment on va proposer des choses, se contredire, en discuter en amont et sur le plateau. Et en réalisatrice, c'est vraiment avec le chef opérateur. En l'occurrence, moi, c'est un homme, donc c'est un chef opérateur. Les assistantes réalisatrices qui en général m'accompagnent, ou les scripts. Voilà, donc moi je travaille vraiment avec toute l'équipe, ce qu'on appelle l'équipe mise en scène, et avec eux je vais vraiment discuter de chaque plan bien en amont et voir les réactions, si les gens me suivent, si les gens me comprennent, si les gens me proposent d'autres choses, si les gens parfois me contredisent mais je dis non, j'en suis sûre.
Ok.
Voilà, c'est fait de travail d'équipe, et puis parfois
c'est toi qui tranche le, quand même.
Ben c'est le leadership,
ouais,
c'est-à-dire qu'on est obligé d'être quand même le capitaine du bateau. Donc pour que tout le monde rame dans le même sens, il faut aussi donner une direction. Donc on peut aussi de temps en temps faire une pause et se dire bon, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on rame tous au même rythme, etc. Mais globalement, c'est à moi de donner la direction. Donc il faut trancher à un moment donné. Tout ça tant que c'est fait en bonne entente et en bienveillance, quoi.
Est-ce que t'as, dans ton, voilà, dans ton rapport, dans ta vie artistique, j'imagine que t'as dû surmonter certaines difficultés. Est-ce que tu voudrais parler de certaines et comment tu les as surmontées? Est-ce que c'était d'un point de vue artistique, d'un point de vue humain?
Oui, évidemment, qui n'a pas de difficultés dans ces métiers qui sont très durs et plein d'ego. Donc oui, j'ai eu des grosses difficultés humaines, artistiques, des grands moments où j'ai voulu arrêter ce métier.
Ah oui, carrément.
Ah oui, franchement, je pense que, enfin, il y a peu de gens.
À quel moment tu t'es dit ça, par exemple?
Oh bah après des ruptures professionnelles très dures ou des trahisons.
Des trahisons.
Ah oui, des vraies trahisons. J'ai vraiment voulu arrêter totalement ce métier. Et puis, je dois avoir une bonne étoile qui fait que c'est toujours dans les moments où j'ai formulé le souhait d'arrêter qu'on est revenu me chercher pour des choses mieux, pour des choses où je me suis dit, tiens, si c'était pas passé ça, bah, j'aurais pas fait ça. Donc, j'essaye que ma résilience soit toujours très positive et d'apprendre des choses négatives qui t'arrivent. Alors après, évidemment, on rêverait tous d'avoir un parcours sans embûches.
Oui.
Mais je crois que c'est une illusion.
Est-ce que justement de ces embûches-là et des difficultés d'un point de vue humain, t'as pu en tirer peut-être des leçons et est-ce que ça te fait avoir d'autres rapports ou est-ce que tu te protèges d'une certaine manière de certaines choses qui peuvent arriver parce que tu les as déjà vécues avant?
Ah bah c'est certain que je me protège beaucoup plus qu'avant.
Ouais.
Mais bon, je pense que c'est lié à l'âge aussi. Hein. On se protège moins à 20 ans qu'à 30. Enfin voilà, je me protège beaucoup plus. Je me fais beaucoup plus confiance et je me fie à mon intuition. Donc je sais plus rapidement identifier les gens toxiques et les fuir dans ce métier.
T'arrives bien à le faire, ça? Parce que parfois, on voudrait tous l'éviter, mais
ça nous échappe. Oui, parfois, ça nous échappe, mais j'avoue que maintenant, il y a quand même des gros indices qui me font mettre tous les warnings. Ouais, tous les warnings sont en éveil. Donc voilà, je fais plus attention, je suis plus blindée et je suis aussi moins influençable et moins je sais plus exactement ce que je veux, ce que je ne veux pas. Et puis il faut écouter, c'est un peu une mièvre ce que je veux dire, mais écouter son corps, c'est-à-dire que moi quand je lis un scénar et que d'un coup ça me donne un peu mal au bide ou à l'estomac, c'est que je sais que j'ai pas envie de le faire mais que je l'ai pas formulé, que j'ose pas le formuler, que j'ai pas osé dire non mais voilà. Et en fait quand on s'écoute, on sait toujours au fond de soi quel est le bon choix.
Mais c'est pas évident.
Parce que c'est pas confortable.
Ouais.
Mais c'est souvent c'est la bonne chose.
Toi.
Ouais. Enfin, en tout cas pour moi c'est ça marche maintenant à 90% comme ça.
Bah c'est chouette, bravo. On s'est rencontrés grâce à notre kiné.
Oui.
Petite dédicace à Philippe.
Oui.
Mais on s'est aussi croisés par hasard à la boxe il y a pas plus de 2 jours. Est-ce que le sport, à quel point le sport c'est important pour toi et comment t'arrives dans ton agenda très rempli à caser ces moments-là?
Alors le sport est devenu vraiment indispensable et vraiment un exutoire fou. Et surtout, je fais des sports souvent entre guillemets un peu violents. Je fais peu de sport doux. Je suis cavalière, je fais de la boxe, je fais des choses. Bon, je fais des choses qui amènent un peu de violence parfois, mais surtout d'adrénaline. Et je crois que c'est la seule manière pour moi de débrancher totalement mon cerveau. Donc ce sont des plages que je m'octroie dans la semaine pour n'avoir... Parce que ce sont des sports qui impliquent que je n'ai jamais mon téléphone portable à côté de moi, par exemple. C'est tout bête, hein, mais...
Ouais.
Mais en fait, il y a des sports où on peut avoir son téléphone. Enfin, quand on fait, il y en a qui font du vélo en salle ou machin, ou même qui écoutent des trucs en courant, etc. La boxe, l'équitation, c'est soit avec le sac de frappe ou soit avec le cheval.
Ouais.
Et c'est la seule façon, moi, que j'ai de décrocher totalement et de me recentrer. Donc, ça me semble indispensable parce que c'est des moments de...
Et t'arrives à t'imposer quand même des créneaux toutes les semaines ou...
Ah, mais je suis pas capable de faire autrement.
Ok, d'accord.
C'est-à-dire que maintenant, s'il y a une semaine où je fais pas de sport, où je suis malheureuse, quoi. Et je le ressens dans mon corps, dans mon moral, dans mon humeur, partout, quoi.
Donc c'est nécessaire.
Quoi. Oui, c'est nécessaire. Même si, comme tout le monde, j'aime pas transpirer et j'aime pas me faire du mal, mais mais ouais,
on sent tellement bien après.
On sent, ouais, et encore, même non, parfois c'est juste un besoin de me dire que j'ai frappé dans quelque chose, où j'ai décroché, où j'ai, en fait, j'ai mobilisé mon attention sur toute autre chose que ma vie, mon quotidien ou mon travail. Ça, c'est une bonne question. Ben, pour moi, une journée idéale, c'est une journée qui ne ressemble pas à la veille. Donc, il n'y a pas de journée idéale parce que je fais vraiment un métier, justement, où chaque jour est totalement différent. Et donc, il y a la journée idéale de je pars de chez moi, je vais tourner, je passe une excellente journée de tournage, je rentre chez moi et je ne fais rien. Et il y a la journée où tout est libre et je vais monter à cheval, lire, refaire une sieste, sortir le soir. Enfin, voilà, j'ai pas de journée idéale. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un moment dans chaque journée qui nous permet d'avoir une petite satisfaction, c'est pas mal.
Et t'arrives justement à te remémorer ces petits moments de gratitude qu'on aime les appeler en ce moment ou
En tout cas, j'essaie de m'en créer au moins un par jour.
Ok.
Voilà, mais c'est des trucs idiots. Hein. Tout à l'heure, j'ai été faire un sac de chaussures que je ne mettais plus et qui sont en bon état pour aller les donner à une asso et j'étais contente. Je me suis dit, tiens, c'est un truc que j'ai fait aujourd'hui qui est intéressant. Voilà.
Et ça t'arrive d'arriver le soir en disant, cette journée était vraiment naze, quoi.
Ah bah, comme tout le monde.
Ouais.
Il y a des journées bien pourries.
Et quel est ton remède aux journées bien pourries ?
Aller me coucher.
Ça ira mieux demain.
Ouais. Je crois qu'il faut pas lutter non plus, parfois. Faut aussi, ça fait aussi partie du lâcher prise.
Exactement.
Laisser, voilà, tant pis. Et puis, évidemment, il y a des journées de l'enfer, mais on peut aussi en rire, une journée de l'enfer. Et on peut aussi se dire que, c'est, en même temps, une journée de l'enfer, il n'y a pas non plus. Tout le monde vit pire, quoi.
Il n'y a pas mort d'homme.
Non. Enfin, si c'est une journée, s'il n'y a pas mort d'homme dans cette journée d'enfer, parce que là, vraiment, sinon, c'est compliqué.
J'ai entendu aussi dans un podcast que tu te fixais tous les ans trois objectifs de choses que tu n'avais jamais faites années précédentes.
C'était pré-pandémie, probablement, ce podcast.
Possiblement.
Mais ceci étant, ça tient toujours.
C'est quoi tes objectifs de cette année
Le problème, c'est que je ne les dis pas avant. Okay. Je l'ai dit après, parce que comme ça, si je l'ai réalisé, je suis bien. Et si je ne les ai pas réalisés, je ne culpabilise pas.
Okay.
Donc, en général, je les verbalise plutôt après.
Et à quel moment tu les choisis ? Est-ce que c'est en début de l'année ? En début d'année
ou... Ouais, en général, ouais. Mais cette année, comme on est quasiment à la fin de l'année, j'ai refait une maison de A à Z, ce qui est pas mal. Sans savoir ce que c'était. Enfin, je ne savais pas le faire avant. J'ai réalisé 20 épisodes de série, donc c'est pas mal. Et il va falloir que je trouve un troisième truc que j'avais jamais fait avant, avant la fin de l'année. Si! Ah bah si, j'ai mis ma jument à la reproduction et je me lance dans l'élevage, donc c'est... Voilà.
Ah oui.
Voilà.
C'est très, très varié.
Ouais. Donc c'est en fait, j'ai fait mes trois choses totalement différentes.
Tu peux terminer l'année.
Je peux terminer l'année tranquille. Bon, en même temps, on enregistre, on est fin octobre et c'est bien. Je suis dans les temps.
Bah bravo. Je regarde l'heure.
On est bien encore, non ?
Ouais, on est pas mal.
Oui, regarde.
J'ai une question qui est peut-être pas forcément évidente, mais je vais quand même la poser. Quel est ton rapport à l'ambition ?
Je pense qu'il a évolué. Je pense que j'en ai plus qu'avant parce que j'ai ouvert le champ des possibles. Avant, comme je te dis, j'étais dans une satisfaction, donc finalement un contentement. Aujourd'hui, aujourd'hui, je vois les portes qui me sont ouvertes et je vois ce que je peux monter comme marche. Donc, j'ai une ambition pas dévorante parce que c'est un côté un peu négatif, mais oui, j'ai l'ambition en tout cas de continuer à me challenger parce que sinon je m'ennuierais. C'est plus un rapport à l'hyperactivité et à pas envie de stagner dans ce que je fais.
Et pour toi, pourquoi tu penses qu'une ambition dévorante, ça serait négatif ?
Non, mais parce que
c'est parce qu'en
ce moment il y a la série Succession, donc évidemment quand je pense à ambition dévorante, je pense à Succession, et donc c'est un peu flippant.
D'accord, ok. Et c'est quoi du coup tes rêves encore inassouvis, mais que tu gardes dans un coin de ta tête
Oh, j'en ai plein, mais c'est pareil, si je l'ai dit et qu'ils se réalisent pas, je serais triste.
Ça peut être aussi un appel.
Non, je crois qu'il y a encore plein de rôles que j'ai pas joué et dans lesquels j'ai envie qu'on se projette pour m'engager, voilà.
Quel type de rôle, par exemple ?
Bah, j'ai envie d'aller beaucoup plus sur du drame, d'être faire moins de comédie, de faire plus de choses d'action, de films d'action et séries d'action. Et en plus, je m'entraîne pour, donc voilà, je sais que physiquement, je pourrais suivre. Peut-être plus voilà, des rôles que j'aurais vraiment envie d'incarner.
Et qu'est-ce qui t'amène sur ces terrains-là ? Parce que c'est nouveau, que tu n'as jamais fait ?
Parce que j'ai beaucoup exploré la comédie, ouais, et qu'on m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup engagée pour de la comédie. On se projette encore beaucoup dans la comédie sur moi, et donc j'ai envie d'explorer d'autres terrains qui vont me paraître moins... moins alors, facile, c'est pas le terme, mais disons... d'avoir moins l'impression de rentrer dans des pantoufles, quoi.
C'est toujours sortir de sa zone de confort, c'est important.
Ouais, même si j'aime pas trop cette idée de sortir de sa zone de confort, parce qu'on est bien aussi dans sa zone de confort, c'est bien aussi d'y rester. Je trouve que c'est encore une injonction, en fait, de sortir de sa zone de confort, qui est...
L'élargir, c'est vrai.
Ouais, l'élargir, disons. Voilà, l'élargir, je trouve ça plus juste. Ouais. Parce que sortir, c'est difficile, ça, c'est violent. Ouais. Plein de gens qui n'ont pas envie ou qui peuvent pas, ou... Donc, j'aime pas trop cette injonction. Par contre, ouais, l'élargir, c'est chouette. En tout cas, essayer d'explorer. Et puis, c'est pas grave de revenir à des choses qui nous rassurent.
Donc, dans l'idéal, ce serait un équilibre entre des choses plus rassurantes, type comédie, et explorer des nouveaux genres.
Oui, non, mais en fait, la vérité, la vraie réponse, c'est de faire le plus de choses différentes possible. Ne pas répéter les expériences, ne pas... Ça m'arrive de lire des scénarios et de me dire, j'ai déjà joué ça 4 fois. Ouais. Voilà, c'est que ça change tout le temps.
En tant qu'actrice, à quel point c'est facile ou difficile, justement, d'aller explorer des nouveaux terrains, parce que j'ai l'impression que c'est quand même un... On est quand même le reflet de la vision d'un réalisateur, d'une réalisatrice, et on nous propose aussi des choses souvent dans lesquelles on a déjà été.
Bah, on est le fruit du désir d'un autre. Hein. Donc vraiment, et l'autre peut être un ou une productrice, une réalisatrice. Hein, bref, on est le fruit du désir d'une chaîne de télé. Ouais. Donc c'est beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas. Mais d'ailleurs, même les stars aujourd'hui, j'écoutais Guillaume Canet chez Augustin Trapenard hier, et il disait qu'il s'écrivait les rôles qu'on lui donne pas. Donc, ah oui. C'est-à-dire que si même lui, il reçoit pas les scénarios dont il rêve, sur son niveau de staritude, là, vraiment, bon. Donc, c'est évidemment que on est le fruit du désir des autres. Mais c'est aussi pour ça que c'est intéressant pour moi, en tout cas, qui en ait la possibilité de passer de l'autre côté et de diriger, parce que ça m'évite soit d'accepter des choses que je ne veux pas faire, soit d'être dans la frustration.
Ça t'est déjà arrivé d'accepter des choses
Bien sûr. En général, ce sont des choses qui sont mauvaises à l'arrivée.
Ouais.
Parce que ça ne peut pas fonctionner. Si le désir n'est pas réciproque, il y a toujours un malaise dans la production.
Et c'était... je ne sais pas si tu voulais parler de ça ou quoi, mais à cause d'un point de vue financier, c'est pour des raisons financières, ou est-ce que tu te dis, ça fait longtemps que je n'ai pas joué, ou j'aimerais bien jouer avec cette équipe-là
Il y a plein de mauvaises raisons. Il y a la sympathie qui est une très mauvaise raison. Ah ouais, mais ils sont sympas. Bon, ça, c'est une mauvaise raison, parce que sympa n'est pas un métier. Voilà, ça, c'est un vrai mantra. Sympa n'est pas un métier. Il y a plein de mauvaises raisons. Évidemment, le côté financier, de temps en temps, se dire, quand même, le chèque est sympa et je pourrais me faire plaisir après. Mauvaise raison, très mauvaise raison. Mais plein raison, de fois, raison qu'on peut pas jeter à la poubelle. Voilà, donc il y a plein de circonstances. C'est pour ça qu'il faut faire un peu le tri, et qu'aujourd'hui, j'ai l'occasion de me poser un peu plus pour dire oui ou non.
Aujourd'hui, tu sens que tu es arrivé à ce stade de ta carrière où tu peux choisir exactement et refuser
Alors,
tous les
choisir,
projets
non, ouais. Mais décliner, oui.
D'accord.
C'est pas tout à fait la même chose.
Ouais.
C'est-à-dire que j'ai pas le choix dans des trucs incroyables dont je rêve et donc je n'ai que à piocher et à me baisser. Non, je n'en suis pas là. Mais en revanche, je peux décliner des choses qui me plaisent moins ou qui me semblent pas cohérentes avec ce que j'ai envie de véhiculer. Surtout que, je sais pas, en vieillissant, j'ai de plus en plus de convictions et d'envie, et il y a des choses où où je tique à la lecture et je me dis non, je peux pas défendre ça. J'ai envie de défendre. En fait, j'ai envie de défendre les choses sur lesquelles je travaille.
Et comment tu répartis ton temps entre justement tes objectifs qui, j'imagine, prennent vachement de temps, comme retaper une maison de A à Z?
Oui, mais là, il y a eu un confinement là-dedans.
C'est vrai que le confinement a sans doute aidé, mais voilà. Tu l'aurais pas fait sans ça?
Ah non, je pense que je l'aurais pas fait sans ça, puis je n'aurais pas appris sans ça, parce que j'ai profité du confinement pour apprendre et faire autre chose. Puisqu'on ne pouvait plus faire notre métier, moi, je ne pouvais plus faire mon métier, je me suis dit, autant en apprendre un autre.
Ouais, donc dans d'autres circonstances.
Non, je pense que cette maison serait encore une ruine à l'heure actuelle s'il n'y avait pas eu de confinement. Voilà.
À toute chose malheur est bon.
Oui, en tout cas, dans mon cas.
Ça marche. On va passer aux petites questions flash, comme je sais qu'on a moins de temps. J'ai une question que j'aime bien poser, c'est quel est ton plus beau souvenir artistique en tant que créatrice, mais aussi en tant que spectatrice?
Alors, en tant que spectatrice, le premier truc qui me vient, comme c'est flash, je vais répondre flash. Vas-y. Ça sera sûrement pas la meilleure réponse. En tant que spectatrice, je pense que c'est quand j'ai découvert le film Mélancolia de Lars von Trier, qui a été pour moi une révélation de me dire, pour la première fois, j'étais dans une salle de cinéma, je me suis dit, ah d'accord, donc j'assiste à un chef-d'œuvre. C'est ça un chef-d'œuvre de cinéma, et donc je comprends un geste de cinéma et une image incroyable. Ça m'a très fort marqué, ému, bouleversé. En tant que créatrice, je pense que c'est la réalisation de mes projets, de mes propres projets, après avoir été beaucoup au service des autres, et quand j'ai créé Virago et que c'est sorti et que ça a eu un certain écho, je crois que j'étais très fière et que je suis toujours très fière d'avoir mené ce projet de bout en bout en étant leader de ma propre création.
C'était ton idée, tu l'as menée.
Oui, avec mon équipe, avec mon co-auteur et un réalisateur, mais on a travaillé tous ensemble. Mais en revanche, le truc part de moi et la DA part de moi aussi. Donc la réalisation, finalement, l'achèvement de cette chose-là m'a rendue très heureuse.
Tu te souviens de comment tu as eu l'idée justement de Virago?
Oui, c'était donc sur un lit d'hôpital en étant très accidentée. En gros, je me suis dit, il faut que... Parce que je suis restée très immobilisée à l'hôpital et donc je me suis dit, si ça me réarrive dans la vie, il faut que je puisse avoir de l'actu et sortir des choses. Donc, il faut que je crée un programme à moi en ayant du stock et en pouvant sortir quelque chose si il m'arrive encore quelque chose
comme ça. C'est quand même la nécessité de dire...
D'exister, oui, je crois.
Je ne peux pas sortir sans rien faire. Enfin, sortir de cet état sans rien faire. C'est compliqué pour toi d'être sans activité, d'être seule.
Alors, la solitude ne me dérange pas, mais pas dans le travail. J'aime travailler avec des gens parce que je trouve que le travail naît beaucoup de l'échange. Mais sans activité, oui. Mais quel que soit, j'ai pas besoin
parce
de
faire... Parce que tu parlais d'hyperactivité tout à l'heure.
J'ai pas besoin forcément de travailler, mais il faut toujours que j'ai quelque chose à faire parce que j'aime bien faire mille choses. C'est-à-dire que c'est vrai que je suis rarement... Alors que je l'ai beaucoup été par le passé, mais aujourd'hui, je suis rarement oisive. Mais parce que le temps passe.
C'est ça. Tu veux en profiter.
On se rend compte à un moment donné que, ah mon Dieu, ça y est, on va passer de l'autre côté de la barrière.
Non, mais c'est bien de se le rappeler parfois, quoi. Mais c'est pas une pression que tu te mets.
Ah non, pas du tout. C'est plutôt un plaisir j'adore une journée. Mais même si j'ai fait des choses bêtes entre des courses et du rangement et voilà, des choses lambda et quotidiennes, je serais toujours satisfaite à la fin de la journée si j'en ai fait beaucoup plus et si j'ai pas arrêté.
Est-ce qu'il y a une personne avec qui tu aimerais jouer particulièrement, si tu pouvais choisir?
Je rêverais de tourner sous la direction de femmes comme Emmanuelle Berco, Mai Wen, que je ne connais pas du tout, mais dont les films m'ont toujours touché en plein cœur, parce qu'ils sont d'une justesse sur les rapports humains, en jeu et en histoire, que ça me fascinerait de travailler avec des femmes comme ça.
Et quelqu'un que t'aimerais mettre en scène qui t'inspire particulièrement?
Si, moi, il y a une actrice que je trouve incroyable et qui me fascine absolument et que je rêverais de diriger. Et en même temps, je ne sais même pas si j'oserais, mais c'est Charlotte Gainsbourg. Mais je ne sais même pas si j'oserais lui parler sur mon propre plateau. Ça serait très bizarre. On passerait un très mauvais moment toutes les deux.
Bon, c'est le temps de passer le cap.
Voilà.
prends un petit café et ça ira mieux.
Non, mais absolument, absolument. C'est tout comme ça toujours. Parce qu'en plus, bizarrement, je suis très peu impressionnée. Ça m'est arrivé de donner la réplique ou de travailler avec des gens très, très connus et très populaires, mais ça m'est un peu égal.
Okay.
C'est-à-dire que vraiment, j'ai un rapport totalement d'égalité à cette... les stars, moi, je m'en fiche un peu. Mais une femme comme Charlotte Gainsbourg, je peux avoir une chose peut-être plus intuitive, plus d'admiration, mais très personnelle au-delà du métier, qui fait que je pourrais avoir une petite timidité.
Est-ce que, pour finir, parce que je ne veux pas te mettre en retard pour le théâtre ce soir...
On a encore 10 minutes, si tu veux.
Ah, on a encore 10 minutes. Est-ce que tu aurais une recommandation d'un ou d'une artiste à suivre ?
Qu'on ne connaît pas ?
Qu'on ne connaît pas trop, qui mériterait d'être plus connu, évidemment. Et qui pourrait, par exemple, passer sur un aparté.
Oui. Alors moi, je recommande absolument de suivre le travail d'une jeune réalisatrice qui s'appelle Anaïs Vaché, qui vient de rafler plein de choses avec un court-métrage qui, je pense, est trouvable sur YouTube, qui s'appelle « La femme accordéon ». Qui est absolument incroyable. Et tout ce qu'elle fait, elle a plusieurs courts-métrages sur YouTube, tout ce qu'elle fait a vraiment une direction artistique, une pensée de cinéma et un geste très précis, un univers bien à elle. Et je pense que ça fait partie des réalisatrices qui vont exploser dans ces prochaines années, et je lui souhaite, parce que c'est un travail tellement précis et complet et complexe que je la trouve passionnante.
Qu'est-ce qui t'a ému dans ce court-métrage particulièrement ?
On voit beaucoup de courts-métrages. En plus, j'ai été beaucoup jury dans des festivals de courts-métrages où souvent on retrouve les mêmes formes, qu'elles soient poétiques, soit politiques, et en fait Anaïs Vaché fait du genre. Mais du genre qu'on n'a pas vu ailleurs. Donc vraiment, il y a quelque chose qui sort du lot, foncièrement.
Ça donne envie. Je le connais pas, mais ouais, j'essaierai de retrouver et de le mettre dans les notes de commentaire du podcast. Est-ce que toi, t'as aussi un spectacle ou un film à recommander, récent ou pas, hein, que t'aurais pu voir?
Alors récent, pas tout à fait, mais si les gens n'ont pas vu Jusqu'à la garde, pour moi c'est tout est dans ce film. Il y a une fausse piste, c'est-à-dire qu'on pense que ça va être un film français contemplatif, et en fait c'est un thriller. Et il y a un message, il y a une réalisation absolument brillante, et un couple d'acteurs de Léa Drucker et Denis Ménochet qui sont fascinants. Et voilà, et en plus ce réalisateur a vraiment fait un geste de cinéma de son court-métrage à son film, un parcours pour moi parfait. Et sinon, en télé, je peux conseiller un truc que j'ai vu en avant-première et qui va sortir bientôt, et qui est très impressionnant par rapport à la chaîne sur laquelle c'est diffusé, parce que c'est une énorme prise de risque et c'est remarquable. Ça s'appelle À la folie, ça va être sur M6 et c'est incroyable, le scénario
d'Eléonore. Ça parle de quoi ?
Alors c'est un scénario d'Eléonore Bauer qui parle de l'emprise dans un couple, mais dans un couple parfait, qui d'extérieur vraiment, le type est formidable, etc. Et c'est comment le mécanisme de l'emprise s'insinue partout jusqu'à détruire quelqu'un. C'est implacable et formidable, et j'ai vu ça, j'ai été complètement bouleversée dans une salle entièrement bouleversée avec des gens qui pleuraient, des hommes qui se levaient en disant merci pour cet outil. Donc c'était vraiment un grand moment de frisson. Je me suis dit, ah, donc ça va passer sur M6 en prime time, et donc c'est fabuleux, il faut voir ça.
Très bien, merci pour ces recommandations. Est-ce que tu aurais des conseils pour des artistes ou des créateurs qui veulent se lancer et pour lesquels c'est un peu dur, particulièrement cette période ?
Déjà, on fait ce qu'on peut. Il faut arrêter de se culpabiliser de « je n'y arrive pas » ou « je n'ai pas fait ci » ou « j'aurais dû faire ça » ou « j'aurais... » Je pense qu'on fait ce qu'on peut. En revanche, la chose sur laquelle on peut agir, c'est la curiosité. Donc, aller voir tout, même ce qui nous plaît pas du tout. Comprendre pourquoi ça nous plaît, ça nous plaît pas. Et savoir ce qu'on veut. Réussir à définir ce qui nous plaît le plus, même si ça bouge, hein, évidemment. Mais je crois que c'est essentiel de lire, voir, regarder, aller vers d'autres arts, s'émerveiller et faire travailler son imaginaire.
Comment tu travailles ça, toi, au quotidien ?
Moi, je vais voir des choses qui sont en dehors de mon métier totalement, des choses qui me sont... mais que ce soit... rural ou des expos, de la danse, par exemple. Je suis à 1700 milliards de kilomètres de la danse. Je ne sais même pas comment ça fonctionne. Je ne sais pas du tout bouger mon corps de façon harmonieuse. donc, ça me passionne et ça éveille mon imaginaire. J'aime beaucoup la peinture, j'aime beaucoup la sculpture, mais j'aime beaucoup aussi aller discuter avec des gens qui font pas du tout ce métier. J'aime beaucoup aller boire un coup avec les agriculteurs de mon village, boire un coup avec des gens qui font complètement d'autres métiers, et puis parler d'autres choses, en fait, ne pas rester dans un petit entre-soi ou dans un carcan.
Amis, c'est pas tous des artistes ou des gens du milieu ?
Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, je de tout milieu, de tous âges aussi. Mmh.
C'est très riche d'avoir.
Et c'est bien de pouvoir sortir. Bah oui, mais c'est l'avantage de faire des sports ou de vivre pas que à Paris et donc de pouvoir côtoyer un autre monde, quoi, qui est indispensable, parce que sinon, l'entre-soi, c'est l'enfer. Enfin, le vase clos, c'est l'enfer pour tout, quoi.
Ouais.
Pour soi, pour les autres, pour sa pensée, pour son intellect, pour sa créativité, pour tout.
Bah, super intéressant. Merci beaucoup, Aude.
Merci à toi.
Pour toutes ces inspirations et ce temps qu'on a passé ensemble. J'ai appris des choses sur toi, sur ta manière de penser. Et je trouve ça vraiment passionnant, donc merci.
Et bah, merci beaucoup. Et que vive En Aparté. Non, Aparté Podcast. Non, attends, je le refais.
En Aparté.
C'est En Aparté ?
Ouais.
Ah oui, c'est ça. Alors que vive En Aparté Podcast.
Merci. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à notre kiné Philippe qui nous a sauvés sur le plan physique, mais a aussi et surtout permis cette jolie rencontre. Retrouvez Aude sur sa chaîne YouTube, mais aussi sur Instagram. Tous les liens se trouvent en description du podcast. Si vous avez écouté jusqu'ici, j'imagine que vous avez apprécié cet épisode. Alors n'hésitez pas à lui laisser 5 étoiles sur les applications Spotify et Apple Podcasts. Et pourquoi pas un petit commentaire, ça fait super plaisir d'avoir vos retours. Merci beaucoup pour votre écoute et à très bientôt pour de nouvelles conversations en aparté.